Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Ah oui, à suivre cette semaine, évidemment. Et Hortense Crépin vient d'en parler. Mardi, l'intervention sous la forme d'une déclaration solennelle hein, d'Emmanuel Macron sur la situation sanitaire avec un calendrier sans doute en trois temps pour l'assouplissement des mesures de reconfinement. Mercredi, nous serons le 25 novembre. Ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, on va en parler dans quelques minutes avec le docteur Ghada Hatem, la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Côté sport, mardi, mercredi, la quatrième journée de Ligue des Champions pour Rennes, l'OM et le Paris Saint-Germain. Et puis, vendredi, du foot féminin avec France-Autriche à Guingamp dans un contexte de grande tension chez les Bleus, même si les angles ont été arrondis, en tout cas publiquement. Mais parmi les événements à suivre cette semaine, il y aura dès demain le procès de Nicolas Sarkozy. Et c'est une première, c'est la première fois qu'un ancien président de la République va être jugé pour corruption. Il va comparaître avec son avocat Thierry Herzog et un haut magistrat à la retraite, Gilbert Azibert. C'est ce que l'on a appelé l'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth. Alors attention, hein, ce n'est pas le dossier Big Malion, ce n'est pas le dossier du financement libyen de la campagne électorale. Non, c'est un peu complexe tout ça, mais on va faire le point. Bonsoir Anne Le Hennaff.
Bonsoir.
Alors, cette affaire, donc, elle remonte à 2013.
Oui, et on lui reproche un pacte de corruption. Alors accrochez-vous, parce qu'en effet, c'est pas très simple. Oui. Tout ça commence dans une autre affaire, l'affaire Bettencourt, dans laquelle Nicolas Sarkozy a depuis été totalement blanchi. Mais pendant l'enquête, ses agendas ont été saisis. Et il veut obtenir l'annulation de cette saisie, parce qu'il se dit protégé par son immunité présidentielle de l'époque. Et il aimerait bien savoir comment sa demande avance, et plutôt discrètement, mais ça, ça va pas marcher du tout. Lui et son avocat auraient donc tenté de corrompre un magistrat pour avoir des informations sur ce dossier. Tout cela en lui promettant en échange un poste à Monaco. Dans ce dossier, il y a des écoutes téléphoniques de conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog qui semblent laisser assez peu de place au doute. Je vous en cite une. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec un conseiller pour bien lui expliquer ce qu'il faudrait. Il m'a dit j'en ai un troisième que je dois voir demain pour savoir avant qu'il délibère. Un autre jour, Nicolas Sarkozy dit à son avocat, je le ferai monter, je l'aiderai, appelle-le en lui disant que je m'en occuperai parce que je vais à Monaco et je verrai le prince. Ouais. Il se trouve que Gilbert Azibert n'a jamais été nommé à Monaco, il nie même avoir postulé. Et puis Nicolas Sarkozy parle, lui, d'un scandale qui restera dans les annales. Mais pour les juges d'instruction, le pacte, même s'il n'a pas marché, a bel et bien existé. Les trois hommes risquent pour cela une peine maximale de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.
Oui, parce qu'on est dans de la corruption, là, absolument. Effectivement. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, donc on l'apprend à cette occasion, étaient sur écoute.
Alors ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez d'un certain Paul Bismuth ?
Oui, moi je m'en souviens un petit peu. Ouais.
Il existe bien ce Paul Bismuth, c'est un ancien copain de lycée de l'avocat Thierry Herzog. Et en fait, c'est sous ce nom d'emprunt que des téléphones portables ont été achetés pour permettre à Nicolas Sarkozy et à Thierry Herzog de se parler discrètement. D'ailleurs, quand ils s'appellent sur leur téléphone classique, ils évoquent, je cite, « ces messieurs qui nous écoutent ». Seulement, voilà, ces portables au nom de Bismuth étaient eux aussi sur écoute.
Ah oui, ça veut dire qu'eux-mêmes savent à ce moment-là qu'ils sont sur écoute.
Alors, en tout cas, à un moment, ils changent de ton dans les conversations. C'est là qu'arrive l'histoire dans l'histoire dans l'histoire.
Ah oui.
Comment ont-ils su qu'ils étaient écoutés ? Les enquêteurs ont longtemps cherché une taupe dans le parquet financier. Ils ont traqué les bornages des téléphones de plein d'avocats. Et ça, on l'a su beaucoup plus tard. Des ténors du barreau surveillés par des juges.
Ah oui.
Énorme scandale. Éric Dupond-Moretti, notamment, a porté plainte. Avant de la retirer, cette plainte, hein, lorsqu'il a été nommé ministre de la Justice. Vous voyez donc l'ambiance absolument sereine dans laquelle va s'ouvrir ce procès.
Ça risque d'être assez tendu, effectivement. Donc, normalement, c'est demain 13h30.
Hein. Alors, ça, c'est ce qui est prévu avec un gros point d'interrogation. Gilbert Azibert a demandé un renvoi, apparemment à cause de l'épidémie du Covid. On saura assez vite, demain, en début d'après-midi, si l'audience a bien lieu comme prévu, et elle est prévue jusqu'au 10 décembre.
Procès, donc, qui devrait durer plusieurs semaines, avec, pour la première fois, donc, un ancien président de la République jugé pour corruption. On a tout compris. Merci à vous.
Tant mieux, merci à vous.
Et dans un instant, à suivre cette semaine toujours, mercredi prochain, le 25, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On en parle avec Ghada Hatem, la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. À tout de suite.
C'est C'est à suivre cette semaine.
À suivre cette semaine, donc mercredi prochain, nous serons le 25 novembre. Ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Bonsoir Rada Hatem.
Bonjour Vincent.
Merci beaucoup d'être avec nous. Fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Alors, j'explique un peu. C'est un lieu d'accueil, d'orientation, de soins pour les femmes vulnérables, victimes de violences. Vous leur accordez un accompagnement médical, psychologique, social, juridique. On va y revenir hein, dans un instant, mais je précise que vous avez, depuis votre création, votre ouverture, effectué plus de 30 000 consultations. Hein, c'est énorme. Je dis consultation parce que c'est dans un cadre hospitalier. Hein, c'est bien cela qu'il faut comprendre. Et vous recevez, c'est énorme, entre 50 et 100 personnes par jour. Alors, justement, ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qu'est-ce que ça représente pour vous qui, au quotidien, toute l'année, êtes confronté à la détresse de ces femmes ? Est-ce que c'est quand même une journée importante ?
J'hésite entre le pensum et le rituel.
Oui, c'est ça.
On va choisir rituel. Allez, on va être positif. Mmh. Oui, c'est important parce que c'est un jour où tout le monde a à cœur de faire le bilan, faire le point, regarder qu'est-ce qu'on a fait en un an. Et ça fait une injection de rappel, comme on dit dans mon métier. Mmh. Après, ça a un côté un petit peu déplaisant. On n'en parle vraiment qu'une fois par an, quel dommage. Donc, c'est toute la difficulté de ces grandes journées mondiales.
On n'en parle qu'une fois par an. Vous avez le sentiment, aujourd'hui encore, que ce sujet des violences faites aux femmes n'est pas suffisamment porté par des personnalités, par les acteurs de la politique, par les journalistes aussi.
Non, vous avez raison, Vincent, surtout par les journalistes. Non, c'est vrai que depuis 10 ans, on en parle de plus en plus chaque année. On parle aussi beaucoup des violences sexuelles, heureusement, ouais. Parce que ça, c'était un tabou dans le sujet et qui touche tout le monde, y compris les acteurs, vous l'avez dit. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on s'attache à faire des bilans à ces moments-là. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on soit juste un peu plus régulier dans nos évaluations pour mieux progresser plus vite. En fait, ce qui est énervant, c'est qu'on progresse lentement.
Alors, cette journée, c'est aussi une occasion de parler des causes de ces violences. Et je crois que justement, vous allez lancer mercredi un spot de sensibilisation sous le nom de Be a Man, soit un homme avec, j'allais dire, en vedette américaine, même s'il est français, Cédric Doumbé, qui a été 9 fois champion du monde de kickboxing. Expliquez-nous ça.
Eh bien, c'est comme toujours une histoire de rencontre. J'ai rencontré Cédric, qui est un concentré de virilité, monsieur muscle, et qui est en fait, d'une grande douceur, et deux, très concerné par ces sujets. Donc, il voulait faire sa part, comme nous tous, et j'en profite pour le remercier. Et on a préparé ensemble, avec l'équipe, un déroulé, c'est très bref, c'est percutant, qui vise surtout à sensibiliser les hommes, parce que Cédric a parfaitement compris que si on voulait que les choses changent, il fallait s'attaquer aux causes racines et que les hommes en faisaient partie.
C'est-à-dire que c'est le lien entre la virilité et la violence qu'il faut arriver à déconstruire. Être viril, ce n'est pas être violent.
En fait, il faudrait déconstruire la virilité, parce que la virilité, c'est une invention. Donc, à partir du moment où les hommes ne se sentent plus obligés d'être virils, peut-être qu'ils seront moins violents. Vous avez vu cette anthropologue, je crois, qui a déconstruit le mythe de la femme préhistorique. On apprend avec plaisir que les femmes préhistoriques ne faisaient pas juste la cueillette et la popote. Elles se battaient, elles chassaient. Donc, on a construit un mythe. On en a construit un autre avec la virilité. Je pense qu'il est temps de tout remettre à plat.
Mais alors, déconstruire la virilité, j'allais dire vaste
vous
programme.
Vous n'êtes pas d'accord. Je sens que vous n'êtes pas d'accord.
Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est que je me dis que, évidemment, c'est culturel, cette notion de virilité les garçons. Donc, il faut aller très profondément, très loin.
Et très tôt, dès l'école
maternelle.
Non, dès l'utérus. Dès la vie intra-utérine des mamans. Enfin, des enfants chez leur maman, il faut expliquer que un garçon, ça ne s'éduque pas avec tout un tas de préjugés et ça ne s'éduque pas en petit mec viril et petit roi. Déjà, ça sera un bon début.
Un bon message à faire passer. Alors, parlons de ces femmes qui arrivent tous les jours, je le disais, entre 50 et 100 femmes par jour qui franchissent le seuil de votre maison des femmes à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Qu'est-ce qu'elles attendent de vous? Et qu'est-ce que vous leur offrez? Un accueil? Un toit?
Alors, non, on ne les héberge pas. Ça, c'est le grand malentendu avec notre nom qui est Maison des Femmes. Mais je pense qu'elles trouvent ce qu'on a eu envie d'y mettre, c'est-à-dire un lieu où tout est fait pour elles. Et tout est fait pour qu'elles puissent s'en sortir. Elles sont accueillies, elles sont écoutées, elles sont crues, elles sont soignées.
Je le rappelle, c'est un cadre hospitalier,
oui,
c'est très important.
C'est une unité de soins. Leur traumatisme est pris en charge. Et puis, on leur offre de quoi avoir une meilleure image d'elles-mêmes. Parce que, en fait, la violence, elle détruit les femmes, même quand elle n'est pas physique. Mmh. Et les femmes que nous accueillons sont extrêmement détruites par tout ce qu'elles ont subi.
Donc, vous les aidez déjà dans, dans leur reconstruction?
Oui, dans la reconstruction de leur personne, par donc tous les soins, et puis parce qu'on leur apporte aussi un accompagnement social, juridique, des avocats.
La sécurité?
Oui.
Une forme d'anonymat aussi?
Bien sûr, parce que vous pouvez rentrer dans cette maison, personne ne sait pourquoi. Est-ce que vous venez pour la pilule, pour un avortement, pour une excision, pour des coups? C'est très anonyme, heureusement. Et puis, on leur permet de porter plainte. Une fois par semaine, un vrai policier, comme dans un vrai commissariat, mais bien plus sympathique, accueille les femmes et prend leurs plaintes. Donc ça, c'est un grand progrès. Et c'est parce qu'on est dans un département très innovant en matière de violences faites aux femmes que toutes ces expérimentations ont pu être possibles.
Parlons de la situation actuelle. Le confinement, le reconfinement. Est-ce que vous avez constaté ou une augmentation des cas ou une aggravation des cas lors du premier confinement et peut-être là dans ce reconfinement?
Il y a eu plus d'appels pendant le premier confinement, plus de signalements. Mais il y a peut-être eu moins de violences très graves. En tout cas, il y a eu moins de féminicides, moins de morts.
Ah, c'est étonnant parce qu'on imaginait qu'il y avait une aggravation justement de la situation.
Oui, mais je pense qu'elle n'est pas allée jusqu'à l'ultime. Probablement parce qu'en fait, les hommes tuent leurs femmes quand elles menacent de partir. Et que là, il n'était pas question de partir.
C'est justement assez paradoxal, ça.
Non, ça s'explique. En tout cas, ce qu'on a vu, ce sont des violences physiques, oui, beaucoup plus, notamment dans les centres de planning qui sont restés ouverts. Les femmes avaient des coups, bien plus souvent que d'habitude, des bleus, etc. C'était interpellant. Et puis, on a eu beaucoup de demandes de mise à l'abri en extrême urgence et beaucoup de consultations par téléphone. Aujourd'hui, ça va mieux. Ce confinement est moins pénible. Les femmes peuvent venir, elles ont le droit, les soins sont ouverts. Et surtout, on a maintenu nos groupes de parole, nos ateliers. Ces femmes souffrent de solitude et leur offrir cet espace collectif était essentiel pour nous.
La Maison des Femmes, c'est donc à Saint-Denis. Merci beaucoup Rada Hatem d'être venue, évidemment mercredi, même si ça a un petit côté pince-somme, on l'a aussi compris. Mercredi 25, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup.
Merci Vincent.
Une courte pause et dans un instant on allume l'autoradio et on jette un œil à l'état de nos routes. À tout de suite.